Vous écoutez France Culture et vous faites bien. Il est 6h45 car Xavier Martinet vient d'arriver dans le studio. C'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Alors vous repartez pour le Kenya.
Oui c'est ça, le Kenya après les attentats.
Après l'attaque terroriste.
Exactement, 21 personnes en plus des 5 assaillants ont été tués après cette attaque donc contre un complexe hôtelier qui s'est terminé hier. Les rebelles somaliens Shebab ont revendiqué l'attaque au nom d'Al-Qaïda en représailles contre le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Mais le Kenya est aussi engagé en Somalie dans une guerre à plusieurs bandes. Alors qui était vraiment visé? On voit ça avec vous, Gérard Prunier, bonjour. Et merci beaucoup d'être au téléphone ce matin. Vous êtes historien, senior fellow à l'Atlantic Council et spécialiste de la Corne de l'Afrique. Alors ça fait 5 ans hein, qu'une telle attaque n'était pas arrivée dans la capitale kényane. Là, le complexe est important. Il comprend une centaine de chambres, des bureaux, des commerces. Cette fois, 700 personnes ont pu être évacuées en quelques heures. Ce n'était pas le cas la dernière fois. Est-ce qu'on peut dire que la réaction des Kenyans a été rapide et proportionnée?
Oui, beaucoup plus que les dernières fois d'ailleurs, parce que des attaques similaires avaient été gérées de manière assez confuse et inefficace dans le passé. Non, là ils s'en sont beaucoup mieux tirés.
Et qu'est-ce que vous retenez alors? C'est d'abord cette réaction des autorités kényanes, ou alors c'est ce que ça semble indiquer, on pourrait dire, du pouvoir de nuisance des Shebab au Kenya? Qu'est-ce que ça dit de leur pénétration, si on peut parler comme ça?
Ça dit qu'elle continue à être extrêmement importante, et évidemment en Somalie d'abord, puisque ça c'est une projection de la guerre civile en Somalie qui tombe sur le pays voisin.
Alors on va reparler de la Somalie pour rester un peu sur le Kenya. Je disais, il n'y a pas eu d'événement majeur de ce type depuis les attentats de Garissa et puis celui de Westgate donc en 2013. Est-ce que c'est vrai que les Shebab ont, disons, plutôt laissé tranquille cette partie de la Somalie, qui se sont concentrés uniquement dans quelques attaques sur le nord? C'est un peu ça ce qui s'est passé depuis?
Oui, mais enfin, bon, c'est pas leur but stratégique central. Hein. Ce qui reste dans leur espoir militaire, c'est un jour ou un autre de reprendre le contrôle de Mogadiscio. Donc en fait, ils frappent une armée étrangère qui est sur leur sol, sur le sol même dont elle vient, elle-même.
Alors de ce point de vue-là, faut y voir un message avant d'être adressé comme réponse aux États-Unis, un message au gouvernement kényan. Et est-ce que c'est pour faire pression sur un éventuel retrait, alors qu'il est question en ce moment de réduire un peu cette AMISOM, cette force des Nations Unies de 1000 hommes, ou alors c'est parce que il s'agit simplement de se rappeler au souvenir des autorités ce 15 janvier qui est une date anniversaire aussi lors d'une bataille importante des Shebab contre le Kenya?
Oui, il y a toute une dimension, symbolique, presque mystique dans la manière dont fonctionnent les Shebab. Il ne faut pas oublier que c'est un mouvement à base religieuse, puisque on est dans une variété d'interprétations de l'islam. Et comme très souvent, d'ailleurs, les islamistes radicaux se battent surtout avec d'autres musulmans. Là, en descendant jusqu'à Nairobi, ils frappent une population non musulmane, puisque Nairobi est extrêmement mélangée au niveau des groupes ethniques, des religions, etc. Une pression, bien sûr. Mais une pression maladroite, d'ailleurs. Parce que, en fait, l'intelligence militaire serait plutôt de se faire le plus petit possible, étant donné que tout le monde en a un petit peu assez de financer la MISOM, et que de se rappeler aux mauvais souvenirs de tout le monde, ça aurait plutôt tendance à dire bon bah il faut continuer à leur donner de l'argent pour qu'ils continuent à se battre, puisque l'armée somalienne, elle, n'en est pas capable.
Oui, non seulement la MISOM, et puis tous les financements, 1,2 milliard de dollars chaque année qui vont à la Somalie en grande difficulté. Dernière chose concernant le message, justement, ce message aux États-Unis, cette réponse en représailles à l'installation de l'ambassade américaine à Jérusalem, est-ce que ça vous semble être un véritable but? C'est ça qui est visé, la politique américaine en Israël, ou la stratégie américaine en Somalie dont il faudrait parler?
Ah, Alors, ben, vous savez, c'est la vieille distinction de, d'Oussama Bin Laden entre l'ennemi proche et l'ennemi lointain. Et bon, les Chebabs sont quand même la force de guérilla islamiste radicale la plus puissante du continent africain. Donc, bon, c'est une manière de rappeler à tout le monde, nous sommes là. Mais justement, ils le rappellent tellement que ça risque d'amener plutôt un ralentissement du retrait de la MISOM.
Du retrait de la MISOM, mais peut-être aussi du retrait qui a été envisagé il y a quelques jours, en tout cas je crois dans le New York Times, retrait des militaires aux États-Unis. On en parle aussi.
Oui, ben ça aussi, ce sont les mouvements erratiques de la politique du président Trump. On en a eu l'exemple avec la Syrie. Ouais, oui, je pars, ah ben non, je pars pas, enfin je pars pas vraiment, je reste mais je reste pas. Bon, il y a une... Les Chebabs sont assez arrogants, c'est une force de combat non négligeable, donc c'est, bon, nous sommes capables de vous pousser.
Alors, justement, vous insistez sur le fait que c'est une force puissante. On parle de 5 à 10 000 hommes, je crois. Mais est-ce que, précisément, ils n'ont pas été mis en difficulté ces deux dernières années, depuis l'arrivée de Donald Trump, par une nouvelle doctrine qu'il appelle celle des zones d'activité hostile et qui permet de mener des frappes de drones un peu comme en temps de guerre, en fait, dans les zones où sont les Chebabs?
Mais c'est une guerre. Et les frappes de drones, bah oui, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un peu le rocher de Sisyphe. Hein. Bon, on en tue deux ou trois, on en tue trois ou quatre, on tue des chefs, mais ça ne change rien à l'aspect global de leur présence sur le territoire somalien. Et qu'on vient de le voir à leur capacité de projection.
Parce qu'il y a certains analystes qui expliquent quand même que l'ensemble de ces frappes, le ciblage des chefs, effectivement l'intensification, ça a conduit à un affaiblissement de la capacité de communication, on pourrait dire, et de dissimulation des Chebabs, notamment par le fait qu'ils n'utilisent plus le téléphone portable, donc que ça ralentit gravement leur communication.
Oui, mais étant donné leur facilité de déplacement dans le pays et le fait que le gouvernement ne contrôle rien du tout, ou pas grand-chose, bon, ça complique un peu les choses. Ça les empêche pas d'exister. Et puis surtout, il n'y a pas une contre-force. Il n'y a aucune forme de stabilité, de développement économique, puisse être un contrepoids idéologique ou politique à leur présence.
Alors, de ce point de vue-là, je vais faire deux parallèles hâtifs, mais qu'est-ce qui empêcherait, on pourrait dire, une solution à la colombienne ou à l'afghane, comme poussent un peu les États-Unis, c'est-à-dire négocier directement avec certains des groupes, en poussant certains chefs à faire défection? D'ailleurs, c'était un peu le projet de Farmajo, ce président élu en 2017. Qu'est-ce qu'il en est de ces négociations?
Ah ben c'est totalement inversé, parce que justement, il en a un, il en avait un de Chebab qui avait changé de côté, et qui, bon, s'était engagé dans un processus d'autonomisation d'une administration post-Chebab dans le sud-ouest. Il l'a fait récemment arrêter et jeter en prison. Ah, pourquoi? Parce que le monsieur, qui s'appelle Mukhtar Robo, était en train de se présenter aux élections et qui avait toutes les chances qu'il gagne les élections régionales. Or, la crainte de M. Farmajo et de tous les centralistes, c'est que le pays, disons, se yougoslavise et qu'on se retrouve avec 5 ou 6 petites Somalies. Il y a déjà 2 morceaux qui fonctionnent beaucoup mieux que le reste. Le Somaliland au nord et le Puntland au nord-est, et qui, eux, n'obéissent plus du tout au gouvernement de Mogadiscio et qui s'en trouvent plutôt mieux.
Et effectivement, des tensions aussi qui ont émergé entre certains États de Somalie, qui ont décidé de créer leur propre parti et qui ont annoncé créer une force armée aussi contre les Chebabs. Est-ce qu'il y a des risques de sécession supplémentaire de ces États?
Je ne pense pas que ce sont des risques. Moi, je dirais qu'il y a des espoirs de sécession. J'aimerais beaucoup mieux voir 5 Somalies en paix qu'une en guerre, et capable en plus de taper sur les voisins. Oui, la solution, c'est peut-être d'en arriver à plusieurs États Somalie, puisque en fait l'expérience du Puntland et du Somaliland sont des exemples de sécessions réussies où tout le monde est en paix.
Eh bien écoutez, c'est dit, et puis ce sera à suivre également pour le Somaliland dont on reparlera. Et merci beaucoup pour vos explications ce matin, Gérard Prunier. Je le rappelle, historien et puis senior fellow à l'Atlantic Council. Bonne journée.